En France, la ministre du Logement a créé la surprise et une polémique cette semaine. Cécile Duflot a appelé l'Église à mettre ses bâtiments vides à disposition des sans-abri. Réponse du président de la Conférence épiscopale de France. L'Église n'a pas attendu la menace brandie par Madame Duflot pour prendre des initiatives. Monseigneur Potvin, porte-parole des évêques de France.
D'abord, je dirais que j'apaise profondément la polémique parce que l'essentiel, c'est le service des pauvres. Et l'Église catholique n'a pas à rougir de ce qu'elle fait déjà. Depuis très longtemps, elle n'a pas attendu cette déclaration fracassante pour agir. Et je peux vous dire que depuis, on assiste à une médiatisation très forte et positive de ce que fait l'Église. L'Église a un rôle social qui est reconnu et vraiment des personnes qui parfois n'ont pas une bienveillance d'image envers l'Église nous le redisent.
À la une sur nos ondes, une crise dont personne ne parle plus depuis 3 ans maintenant. Madagascar attend des élections pour en finir avec l'affrontement des présidents Ange Razoel et Marc Ravalomanana. L'Église vient de publier sur place une lettre pastorale dénonçant sévèrement la classe politique qui est responsable d'une véritable spoliation des richesses du pays. Mais pour le père jésuite Sylvain Huffert, qui vit sur l'île depuis 1974, la communauté internationale a elle aussi sa part de responsabilité.
La SADC pour gérer le cas de Madagascar est tout simplement une aberration. Ça nous fait quand même un peu bizarre d'entendre des leçons de démocratie venant du Congo, du Swaziland ou de Mugabe au Zimbabwe. Et donc cette communauté internationale ne sait pas très bien ce qu'elle veut. Le changement de pouvoir ne s'est jamais fait de manière démocratique. Dès qu'un chef est en place, il verrouille pour rester. Et la seule façon de le faire partir, c'est la rue.
En Égypte, la principale coalition de l'opposition rejette le dialogue national proposé par le chef de l'État, le président Morsi, issu des frères musulmans. Aujourd'hui, le pays est divisé. On est très loin de l'union révolutionnaire contre Hosni Moubarak. Figure de l'opposition, le député Mounir Abdelnour et le secrétaire général du parti nationaliste Waft.
Ce qu'il y avait de magnifique dans les journées du 25 janvier 2011, c'est une union fantastique de l'Égypte profonde dans l'espoir de pouvoir bâtir un nouvel État démocratique, moderne, juste. Et là, on est en train de voir une division entre une Égypte qui se veut laïque, comme elle l'a été durant les 2 derniers siècles, et une Égypte qui se veut islamiste, qui veut sortir du cours normal et de l'appartenance culturelle de l'Égypte à ce monde méditerranéen. Ces mouvements islamistes veulent nous faire retourner à une période d'obscurantisme qu'on refuse.
C'est un pays qui a été relativement épargné par le souffle révolutionnaire des printemps arabes, mais aujourd'hui, la Jordanie est le théâtre d'une vague de manifestations réclamant une accélération des réformes politiques. Jamais encore on ne s'était attaqué à la personne du roi Abdallah. Un cap aurait-il été franchi? Joseph Baou, chercheur au Centre d'études et de recherche internationale.
La construction politique jordanienne fait en sorte qu'en fait la monarchie et la personne du roi est intouchable et même sacrée. Elle est acceptée par pratiquement tout le spectre politique et en général la revendication, qui n'est pas nouvelle en Jordanie pour des questions sociales et économiques, touche en général la personne du Premier ministre qui est le fusible par excellence. Aujourd'hui, le fait même qu'on ose toucher à la personne du roi, qu'on appelle à la fin de la monarchie, qui est une institution pratiquement consubstantielle à l'État jordanien, c'est plus qu'une ligne rouge qui est franchie, c'est pratiquement un séisme dans le cas politique jordanien. La question est de savoir si c'est une revendication pour obliger le roi à engager des réformes beaucoup plus profondes ou est-ce que vraiment il commence à avoir un ras-le-bol par rapport à la personne du roi.
La réalité serait-elle sur le point de dépasser la fiction? Human Rights Watch alerte sur le danger potentiel que représenteraient des armes complètement autonomes. On est loin, cela dit encore, d'une indépendance totale de ces robots tueurs, de ces drones dans les zones de guerre. Mais il est vrai que de nombreux problèmes se posent, juridiques et éthiques. Ancien général de l'armée de l'air, Michel Asuncio, est chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique.
Les pilotes de drones qui sont actuellement sur le continent US et qui pilotent ces drones du côté de la frontière afghano-pakistanaise et qui sont amenés à tuer des talibans, eh bien, c'est extrêmement difficile pour ces gens-là d'être assis dans un fauteuil, d'essayer de jouer au jeu de guerre, de tuer des gens et de les voir, puisque vous avez l'image en direct, et puis ensuite de prendre leur voiture, d'aller chercher leur enfant à l'école, de dîner avec eux. Donc vous voyez que éthiquement, ça pose également un problème d'utilisation. On parle de guerre des lâches. Comment utiliser demain des robots et des appareils totalement utilisés face à des poitrines humaines? C'est également un problème à résoudre.
Et enfin, ce projet à 16,5 milliards d'euros. Le président russe a lancé ce vendredi au bord de la mer Noire les travaux de construction du gazoduc South Stream, un gazoduc qui doit permettre à Moscou de livrer son gaz à l'Union européenne en évitant l'Ukraine. Kiev discutait la facture du transit. Elle se retrouve plus isolée que jamais. Philippe Migaud, chercheur à l'IRIS.
Je pense que l'Ukraine a joué trop gros et qu'elle a perdu sur toute la ligne. Parce que d'abord, elle n'est pas en train de créer son propre gazoduc. Elle a voulu mettre sur pied des infrastructures pour faire venir du gaz naturel liquéfié en Ukraine. Et il s'avérait que le contrat qu'elle avait signé notamment avec une firme espagnole n'est pas valable. Par ailleurs, elle va perdre, à cause de South Stream, plusieurs milliards de dollars chaque année de droits de transit du gaz russe qui transitait précédemment par son territoire. Kiev a voulu se livrer un bras de fer avec Moscou. Kiev a perdu et je pense que la chute va être douloureuse.